Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moins il y aura de matchs à jouer, moins il y aura de points à prendre pour nos concurrents. Les zones mathématiques.
69, 64, 63,
11 fois 14.
114.
154.
Compte tenu que j'ai eu mes diplômes dernièrement, maintenant je me prends pour un professeur de mathématiques.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot. Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi comme tous les soirs de l'Euro sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. On vous attend dans l'After, premier podcast de France, espace de liberté pour tous les supporters. On vous attend, supporters portugais, tchèques, géorgiens, turcs, français aussi, puisqu'on va longuement parler de l'équipe de France évidemment ce soir. Et puis vous le savez, après l'After, il y aura la libre antenne de l'After jusqu'à 1h30. Florent Gautreau est là, salut Florent.
Salut à tous.
Et Daniel Riolo, Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Au programme ce soir, analyse bien sûr des matchs du jour, toute l'actualité également. Je rappelle que nous sommes à 60 jours de la reprise de la Ligue 1 et que le football français est toujours en faillite virtuelle. Aucun contrat de droit télé n'est signé. On fera un point tout à l'heure sur cette question. Le Portugal bat la République tchèque 2-1. La Turquie bat la Géorgie 3-1. 32-16, on vous attend. On vous attend sur Direct Studio également. Tout de suite, pour parler du Portugal qui gagne juste après les 3 points.
Jingle. L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Florent.
Eh ben écoute, ils les ont fait douter ces tchèques, mais victoire méritée pour le Portugal, un favori encore victorieux et puis mérité parce que les stats sont impressionnantes, on va en parler collectivement. Après il y aura des choses à dire quand même sur cette équipe portugaise. J'ai bien aimé le match de 18h, le Turquie-Géorgie. Oui. Et j'ai bien aimé la Géorgie, même si la Turquie là aussi au final, je pense, mérite cette victoire également, mais ça montre qu'il y a des nations intéressantes parmi les outsiders. Et puis après, je voulais reparler des bleus, et ce sera l'objet de mon avis tranché, donc je le tease dans les 3 points, sur des levées d'incertitude, malgré tout avec le match d'hier, sur quelques postes défensifs.
Daniel.
J'ai pas aimé le Portugal. Je ne comprends pas comment joue le Portugal. Et le point 3, j'aimerais revenir effectivement sur le match des Bleus hier soir, et notamment sur Dembélé, qui selon moi échappe toujours aux critiques. Toujours. Il a un statut qui est très étonnant dans le football français, Dembélé. Donc je voudrais en parler tout à l'heure.
Très bien, on le fera. J'aimerais démarrer, avant qu'on parle du Portugal, sur la règle du hors-jeu. On a eu aujourd'hui 2 hors-jeu refusés. Pour 3 centimètres.
Ah, donc hier,
le pied du Turc, là, cet après-midi, mm-hmm, contre la Géorgie, vous avez vu l'image? T'as les doigts de pied. Il est hors jeu des doigts de pied.
Ah oui, à partir du moment où tu mets un trait et tout, forcément.
Et là, Cristiano Ronaldo, il est hors jeu d'un bout d'épaule. Mm-hmm. Alors, en fait, moi, j'en peux plus. Alors, déjà, évidemment.
Mais tu découvres pas ça maintenant, on l'a
année,
ce genre de choses.
Là, tu l'as 2 fois sur 2 matchs de l'Euro. Franchement, c'est ridicule.
Ce qui est vrai, c'est que
moi, finalement, la règle de Wenger là, qui disait sifflons hors jeu quand le joueur est entièrement devant. Bah finalement, c'est pas si
mais
con.
Ça sera
en fait
la même chose, le entièrement.
Mais c'est pas si con, non, parce que t'auras plus 20 hors jeu par match.
Justement, décaler tes centimètres.
T'auras plus 20 hors jeu par match. En fait, t'en auras 3 ou 4.
Tu vas décaler en fait le bout de corps ou les millimètres qui t'emmerdent. Tu vas les décaler à un autre endroit, mais tu vas les décaler.
Et puis évidemment, on ne voit jamais le départ du ballon dans les fameuses. Dans les fameuses
ça ne changera rien en fait ce que tu dis.
Ça va, si,
tu vas juste décaler les centimètres.
Ça peut un peu changer la règle de Wenger dans l'esprit, et après il faut l'appliquer techniquement. C'est
oui,
de dire,
c'est aussi la lettre et l'esprit.
C'est de dire qu'en gros, là, le joueur avec ce bras ne tire pas avantage de cela.
Ah oui.
Tu tires avantage.
Objectivement, Cristiano, il n'est pas hors jeu en fait.
Non, si tu triches entre guillemets en restant derrière ton défenseur, oui. Et là, les arbitres de touche sont là pour ça.
Est-ce que vous voulez, cette discussion ne m'intéresse pas, parce que de toute façon.
C'est pas parce qu'elle ne s'intéresse pas qu'on ne peut pas la faire.
Et en fait, elle n'est pas intéressante parce que de toute façon, vous n'aboutirez à rien.
Alors, on peut toujours proposer.
Oui, ça dépend, ça peut changer.
Ah.
Bah, peut-être les règles peuvent. Ces règles-là sont nouvelles.
Les règles ont tellement changé ces derniers temps. Il n'est pas exclu qu'on nous écoute un jour.
Sur le principe footballistique, c'est vrai que le gars là, qui réceptionne Lukaku hier, Ronaldo aujourd'hui, Turc, c'est début.
Voilà, c'est début.
Du centre, le mec fait gaffe à pas tricher en attendant entre le gardien et le défenseur. C'est début. Bon, voilà, ils ne sont pas validés, c'est comme ça.
Bon, voilà, c'est la parenthèse. La parenthèse hors-jeu. Patrick est là, supporter du Portugal. Salut Patrick.
Salut tout le monde.
Bonjour. Bon, est-ce que cette victoire te fait du bien ou t'inquiète?
Pas du tout, elle m'inquiète. Alors, t'as le résultat, et tant mieux, mais en fait, dans le jeu, on était pauvres, quoi. Je trouve qu'on était, la première mi-temps, elle est catastrophique, quoi. T'as le ballon, mais tu sais pas quoi faire avec. T'as rien. T'as pas un décalage, t'as pas un centre, t'as pas les tirs de loin, les corners à deux, je sais pas c'est quoi ce délire de corner à deux, de faire des corners à deux, le but d'un corner c'est de rapprocher des buts, tu repars à 50 mètres de tes cages. Et le souci que j'ai, c'est qu'avec Martinez, ça va pas changer. Et je me dis que si.
Dans les corners à deux, t'as raison. Normalement, le corner à deux est censé attirer vers toi, faire sortir les défenseurs de la surface. Enfin, si tu repars limite dans ton propre camp, effectivement, ça n'a aucun sens.
Ah, mais de toute façon, il faut revenir sur ce que propose cette équipe et déjà partir du constat qui est évident. C'est individuellement, je pense, la meilleure équipe. Il n'y a que des stars, il n'y a que des bons joueurs. Moi, je trouve que l'équipe, elle est formidable. Mais le problème, c'est que, et c'est peut-être quelque part bon signe, c'est en 2016, c'était encore plus pourri en termes de jeu, et la première phase avait été horrible, et pourtant, l'équipe était allée au bout. Bon, ok. On peut voir une sorte de signe comme ça. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que j'ai très peu de souvenirs. À part, il y a très longtemps, j'aimais bien en 2000, j'ai bien aimé en 2004. Mais le Portugal qui joue bien, c'est un concept. Alors que, il y a que des bons joueurs. Et qu'il y en a peut-être jamais eu autant des bons. Même sur les générations qui étaient formidables, hein, la génération 2000, elle est vraiment super, 2004. Le Portugal, maintenant, on est habitué depuis 25 ans à ce que ce soit une équipe faite de joueurs extraordinaires. Mais, je reviens à l'équipe de ce soir. Et tu regardes le 11. Il est incroyable, le 11. Il est incroyable. C'est que des joueurs qui, dans des grands clubs, que des joueurs fantastiques. Mais ça ne ressemble à rien. Tactiquement, je ne comprends pas. Je ne vois pas où veulent jouer les joueurs. Je ne comprends pas le fil conducteur. Je ne comprends rien à ce que fait l'équipe. Ils ont arraché la victoire avec un peu de réussite, et parce que bon, les Tchèques, franchement, c'est pas le fait que les Tchèques mènent 1-0 à un moment.
Victor,
c'est,
franchement, c'est un miracle, Daniel, hein. En dehors de ça, quand même. Après, on partira sur le. Je suis d'accord sur le débat tactique. La victoire, elle est quand même méga méritée.
Évidemment, ils ont tout le temps la balle.
Il y a le but en jeu qui est quasi pas hors jeu.
Évidemment, qui mérite de gagner.
Ils méritent pas d'être menés.
Mais ils ont failli se faire braquer. Tu vois, quand les Tchèques marquent, tu te dis, ils vont se faire braquer tellement ils ne jouent pas bien. En fait, il domine. Mais rappelle-toi la dernière Coupe du Monde, le match contre le Maroc. Mais c'est pas possible la façon dont ils l'ont perdu. C'était inadmissible.
Mais en fait, vous parlez d'un truc qui est profond. Alors la meilleure équipe du Portugal pour moi, c'est en 2006, où t'as qu'un créateur qui est Deco.
2006 là, quand tu perds. Mais pareil, en 2006.
Attends, je finis, Daniel. Ouais. Comme tu dis, là t'as plein de bons joueurs, sauf que t'as l'impression qu'ils se marchent dessus,
oui,
tous, et qu'ils savent pas jouer ensemble.
Oui.
En fait, faut faire des choix. Mmh. Mais t'as l'impression qu'on veut pas faire des choix, comme tu dis. C'est ça le problème, c'est qu'on a plein.
Et tu fais que empiler. En fait, tu ne fais que empiler parce que tu fais pas de choix. C'est comme le fait de forcément faire jouer Cristiano Ronaldo, alors que pour moi il apporte plus rien du tout. Mais bon, comme il a mis 2 buts en amical la dernière fois, et puis que c'est un totem, on n'y touche plus. Mais il apporte rien. C'est comme mais les autres ne savent pas. Les autres ne savent pas quoi faire par rapport à lui de toute façon.
Oui, et il apporte si t'as de vrais ailiers. En fait, là c'était terrible pour lui parce qu'il n'avait pas de ballon. Donc il est obligé de décrocher pour rechercher pour au moins toucher le ballon. T'as un Neao, il sait pas faire un centre. Il veut dribbler tout le stade. Il sait pas faire un centre. Il sait pas jouer en une touche.
Ouais.
Il doit toucher le ballon 150 fois. Mmh. Bernardo Silva, c'est pareil de l'autre côté. Il n'a pas de ballon. Tu aurais mis n'importe quel neuf. En fait, c'est ce qu'ils ont mieux fait en deuxième mi-temps. En fait, quand tu as une équipe qui est comme ça, bloc bas, tu as deux solutions. Soit tu commences par faire des centres, soit tu fais des frappes de loin pour créer du danger devant la surface. Et parce que tu sais, comme il y a du monde, tu vas avoir des cafouillages. C'est ce qu'ils ont mieux fait en fin de deuxième mi-temps.
Oui, mais d'accord. Mais ça évidemment. Mais ça fait trop de compétitions de suite. Que cette équipe propose un jeu insipide alors qu'elle n'a que des bons joueurs. Et en fait, de ne pas trouver un sélectionneur capable d'assembler. On s'est tapé Fernando Santos pendant des années qui était même pas la moitié d'un Deschamps. Mais bon, c'était le papy du peuple, et puis l'Euro 2016, ça l'a mis tout en haut. Dans la foulée, Enfin, en fait, c'est incroyable de ne jamais avoir trouvé, avec tous les entraîneurs que le Portugal a, parce que c'est quand même un pays qui fait des bons joueurs, aujourd'hui, je me dis même pas si c'est pas le pays du football en Europe. Les agents sont portugais, les joueurs sont portugais, les coachs sont portugais, les recruteurs c'est portugais. Enfin, c'est le pays du football. Et tu n'arrives pas à avoir un coach pour diriger 11 mecs et proposer. Je sais pas, moi. T'es obligé de jouer dans une défense à 3 parce que t'as Pep qui a 53 ans et qui doit encore jouer. T'as les meilleurs formateurs avec l'académie du Sporting qui est extraordinaire. Et t'arrives avec un match où il faut que t'attendes la dernière minute pour battre les Tchèques qui, franchement, proposent rien du tout, les pauvres. Non, et à un moment, on s'est même demandé s'ils allaient pas vous braquer la rencontre.
Ah ben, et en plus, le pire, c'est que quand on se prend le but, on retombe dans les travers du Portugal qui est que tu commences à faire des fautes, tu te retournes contre l'arbitre.
Ouais, alors, c'est ça.
Au lieu de proposer un jeu où tu te dis, ben, on va aller. Non, ça y est, on va recommencer à faire des fautes, on va recommencer à se râler. Et là, tu vois, tu commences à avoir des joueurs qui vont tous contre l'arbitre. Tu as même Ronaldo à un moment qui discute contre l'arbitre. Et je me dis, ça y est, on est reparti. On va se pourrir le match tout seul.
Mais tu sais, t'as une vraie question qui se pose pour aller plus loin là sur. Pour d'autres équipes, d'autres sélections, sur le choix des sélectionneurs. Parce qu'en fait, tu t'aperçois aujourd'hui que la qualité au niveau managérial, elle est au niveau des clubs. Mais tu regardes l'Angleterre et le Portugal. Deux des gros favoris de cette Euro. Mmh. Avec deux effectifs, avec des joueurs incroyables. Et dans les deux cas, tu n'es pas satisfait, après les deux premiers matchs de l'Euro, des performances ni du Portugal ni de l'Angleterre. Et effectivement, je pense que la responsabilité en incombe en grande partie dans les deux cas aux deux sélectionneurs, Southgate en Angleterre et Martinez.
Southgate, donc, c'est pareil, il est archi mauvais. Il n'a que des bons joueurs.
Donc on est dans un cas identique et c'est intéressant de voir quand même que dans les grands clubs, tu vois, le choix du coach change la donne. Si à City, t'as pas Guardiola, t'as pas cette histoire-là dans le club. Ben, dans le choix d'une sélection, aujourd'hui, t'arrives à faire des erreurs, enfin des erreurs quand même assez évidentes. Enfin, des choix. Quand Roberto Martinez est arrivé, personne a sauté de joie du côté du Portugal. Je veux dire,
c'est la génération de la Belgique qui va gâcher celle du Portugal.
Mais exactement. Et donc personne, tout le monde savait que ça allait être limité. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que dans un pays où en gros quelque part le pouvoir des clubs est telle et le football de club entre guillemets de meilleure qualité à ce niveau-là pour que tu arrives quand même à garder, parce que Southgate, on en parle, mais ça fait des années qu'il est à la tête de l'Angleterre. Fernando Santos, il est resté des années à la tête du Portugal. Donc tu arrives à avoir, et même nous évidemment la France, on a gagné, le débat est plus compliqué, mais c'est pareil de garder aussi longtemps un coach sans avoir aucune autre idée en termes de jeu pour proposer quelque chose de différent. C'est quand même un truc, c'est un débat assez intéressant.
Là, tu parles des clubs, enfin dans l'équipe de départ là, ils jouent tous à l'étranger.
Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est que ce que dit Daniel, regarde les coachs portugais qui pullulent à l'étranger sur les bancs des grands clubs. Tu vas pas me dire que tu vois, tu pouvais pas aussi avoir. Et encore, je te dis ça, c'est pas forcément un coach portugais, un sélectionneur portugais qui doit sélectionner.
Est-ce que ces coachs à l'étranger qui cachetonnent dans les grands clubs européens, ils ont envie d'être sélectionneurs?
Le meilleur sélectionneur portugais que tu as eu, c'est Solari qui était brésilien.
Oui, non, mais d'ailleurs, t'as raison, c'est pas forcément un portugais, mais en tout cas, de tomber sur Roberto Martinez pour une des meilleures sélections d'Europe, comme de tomber sur Southgate pour une des meilleures sélections d'Europe, c'est quand même un peu dingo.
En plus, Southgate, à la limite, il est anglais, ils prennent un anglais, mais les portugais. Ah,
même, c'est pas une raison.
Non, mais oui, t'as raison.
Pas une raison. Ils ont eu avant, ils sont allés chercher Eriksson, les anglais et tout, donc ils peuvent très bien aller chercher à l'étranger.
Vitinha a été élu homme du match. Patrick.
Non, mais Vitinha, il est bon. Mais en plus, c'est pas qu'ils sont tous individuellement mauvais. Pas du tout, c'est pas ça. Ils sont tous pleins de bonne volonté. C'est une équipe qui veut aller de l'avant, qui a envie de jouer, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de fil conducteur. En fait, on comprend pas ce qu'ils veulent faire. Je trouve que c'est un gâchis permanent. C'est ça qui est terrible, en fait.
Patrick, un truc à rajouter?
Peut-être qu'on en attend trop parce qu'il n'y a que des stars. C'est à que des bons joueurs. Bon, écoute.
Écoute, moi, ce que j'espère, c'est que en fait, je sais pas trop, comme tu dis, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la République tchèque, c'est un peu, on va jouer que des équipes comme ça. On est un des favoris. On va avoir beaucoup d'équipes comme ça. Et qu'en fait, aujourd'hui, tu te dis, bon, ben, alors, soit tu comptes sur la chance, soit, en fait, aujourd'hui, je me dis, le Portugal n'a pas d'armes, autre d'armes que la chance pour contrer ce genre d'équipe-là. Que tu vas rencontrer sur
c'est peut-être un peu exagéré, Patrick, quand même. T'as des armes qualitatives.
Alors après, avec les critiques là, on va tomber, je le vois sur le chat, c'est comme en 2016, c'est parmi les plus grands susceptibles en supporters, les Portugais, ils sont top 3. Ah bon, ils sont mais incroyables.
Avec qui?
Alors que eux,
peut-être qu'ils sont top 1, va savoir.
Alors que eux, si leur sélection perd le match, ils vont mais la détruire au lance-flamme, mais toi t'as pas le droit d'y toucher. Il y en a même un complètement abruti qui allait dire que j'ai dit que les Bleus avaient bien joué hier. Ah, faut être complètement abruti pour dire un truc pareil quand même. Si moi j'ai dit que les Bleus avaient bien joué hier, mais bon.
Non, en revanche, t'as dit que t'avais vu l'intérieur du nez de Mbappé avant tout le monde, et ça, et là, là c'était une connerie.
Oui, t'es un mauvais médecin, Daniel.
T'as mauvais médecin. Ou quoi? Ah non, il s'est passé quoi? Il joue pas contre les Pays-Bas?
Non, t'as dit opération, 10 jours d'arrêt.
L'opération va se faire après. Ils prennent le risque de pas la faire.
Oui, pour l'instant, c'est pas le cas.
C'était un choix.
Je t'ai dit que tu ne peux pas faire la radio à distance.
Moi, ce que je te dis.
Tu peux faire une émission de radio à distance, mais pas la radio à distance.
Moi, ce que je te dis. C'est un service supplémentaire que je vous propose.
D'accord, médecine. Vas-y.
Parce que médecine, c'est.
On a déjà Roland pour ça.
Moi, c'est pas mon truc.
Roland médecine. Est meilleur que toi. Hein.
Moi, je vous ai proposé un truc en plus.
Ah, moi, si j'ai un problème, je viens pas de consulter. Hein.
Mais je ne t'en voudrais pas de pas venir. Moi, je vous propose un truc en plus.
En plus, je suis sûr que tu mets des honoraires hors de prix.
J'essaie des nouveautés.
Il n'est pas conventionné, c'est sûr.
Je suis pas conventionné.
Ah, ok.
Moi, je suis un peu rebouteux et tout.
Parce que moi, dans le triangle, porte de
moi, j'essaye un service supplémentaire. Sauf qu'hier, je vous l'ai dit, le nez pété. Je vous l'ai dit tout de suite, il jouera pas contre les Pays-Bas. Non. Je vous l'ai dit.
T'as dit, c'est fini pour le premier tour.
Bah, parce qu'ils veulent prendre le risque. Ils veulent prendre le risque.
T'as dit surtout
ils prennent le risque.
Avec la radio que t'avais faite à distance.
Il a le nez cassé.
Non, tu m'as dit déplacement de la cloison, opération nécessaire.
Je sais même pas ce que ça veut dire, j'ai pas pu dire ça.
Non, mais ça, il y a eu déplacement parce que le nez lui a été remis droit dans le vestiaire.
Bah, voilà, en plus.
Donc ça,
les mecs, ils font du charlatanisme dans le vestiaire, excuse-moi de pas l'avoir.
C'est un médecin qui l'a fait, Daniel, c'est pas Maignan qui a pris son nez et qui l'a remis, quoi.
Écoutez, moi, j'ai ajouté une corde à mon arc, c'est médecine.
Ouais.
Maintenant, je fais ce que je peux.
Ouais.
C'est pas voilà. Toujours excellent. Non,
moi, je dirais
que je me débrouille.
Là, c'est mieux.
Je me débrouille. J'essaie de progresser.
T'es le médecin que si t'as un truc grave, t'hésites à consulter quand même. Je viens pour des broutilles.
Tu as raison.
J'ai un problème. J'ai une rougeur.
Ne me fais pas une confiance aveugle. Okay. J'essaye de progresser.
Okay. Ça va.
J'essaye de progresser.
Non, parce que.
Mais je vous ai quand même annoncé qu'ils joueraient pas contre les Pays-Bas et je pense qu'ils prennent un risque pour la Pologne. Et ils repoussent l'opération alors que pour ce qu'il a, il devrait se faire opérer. Mais je peux comprendre que pour l'euro, on ne peut pas se passer de lui.
Non, pour ce qu'il a, il doit se faire opérer, mais il peut attendre pour se faire opérer.
Donc,
c'est ça l'histoire.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va jouer sans respirer. Il va jouer en apnée.
Il paraît que déjà ce matin, ça allait mieux. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Restons pour l'instant sur le Portugal.
Ils disent que ça va mieux.
Je remercie.
C'est pas parce qu'il a fait un tweet rigolo sur choisissez mon masque que ça va mieux.
C'est un peu la faute de Luis Enrique. Ça, à force de ne pas le faire jouer, tu vois, il n'avait plus l'habitude de faire des têtes.
Non, mais de toute façon, les têtes, ça n'a jamais été son truc.
Non, c'est clair.
Il n'aura jamais dû y aller.
Je sais qu'on a rappelé.
Mbappé peut être le meilleur joueur du monde sans faire de tête.
Tu sais que c'est assez marrant parce que je disais hier que la dernière fois qu'il avait fait une tête, il a eu une commotion à la Coupe du Monde 2018. Tu sais qu'il avait une petite commotion cérébrale, Mbappé. Je crois que c'était la Coupe du Monde 2018. Et
il a fait mimétisme avec Thierry Henry jusqu'à être mauvais de la tête.
Ouais, et la deuxième fois, c'est hier et il s'est pété le nez. Donc je t'annonce que là, on ne va plus le voir du tout sur. Tu peux remettre Giroud et Thuram en neuf.
Allez, dans un instant, on continue le débat sur le Portugal. Je remercie Patrick au 32-16. On va accueillir Tony dans quelques instants. On parlera ensuite des Tchèques. Et puis, effectivement, de l'excellent match Turquie-Géorgie. Peut-être un des meilleurs matchs de l'Euro pour l'instant en termes de rythme, d'action, de renversement. C'était top. On en parle.
Ils n'auraient pas dû jouer en blanc. Quand, avec les Tchèques en blanc, t'es sûr de perdre.
Voilà. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à 18h30. L'after foot intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h17, on analyse les matchs du jour, ensuite l'équipe de France reprogramme les droits télé, le reste de l'actu du jour. Également, on a Anthony au 32-16 qui veut défendre Roberto Martinez. Anthony, bonsoir.
Bonsoir à tous et merci de m'accueillir ce soir.
Bonjour Anthony.
Tu es le bienvenu, c'est chez toi dans l'after.
Il y a beaucoup de gens qui se moquent de prescriptions médicales.
De tes prescriptions? Oui, Daniel a été rebaptisé Docteur Maboule pendant la pub. Vous vous souvenez de ce jeu, Docteur Maboule?
Ah, bien sûr.
Un jeu totalement pervers, dans lequel, quand tu faisais une erreur, tu prenais un coup de jus.
Donc, mais là, ça n'arrête pas. Fais-moi un arrêt maladie. J'ai un adducteur qui siffle un peu.
Donc maintenant, dès que tu vas nous faire les annonces médicales, comme pour Djokovic et Mbappé, on va t'appeler Docteur Maboule.
Djoko, c'est pas une analyse médicale. C'était une analyse de son bluff. je n'avais aucune info sur son état de santé.
Docteur, tu t'es dit qu'il bluffait.
Absolument. En fait, je me suis dit qu'il bluffait. Voilà, c'est exactement comme
ça. Merci, docteur Maboul.
Et que t'es pas capable
on
de
pourrait peut-être te créer un jingle, docteur Maboul. Ça doit se trouver.
Ouais, une pub, docteur Maboul.
Et sur Mbappé, je maintiens qu'il n'y a pas d'erreur. C'est une bonne analyse.
Bon, Anthony, toi, tu nous as écoutés là et tu veux défendre Bob Martinez.
Alors, pas que Roberto Martinez. En fait, deux points. Le premier, je tiens à défendre l'équipe du Portugal et je suis pas entièrement d'accord avec ce qui s'est dit juste avant en vous écoutant. Parce que c'est ce que je disais à votre standardiste juste avant, ce genre de match sous l'ère Fernando Santos, quand on prenait un but comme ça dans le coup, enfin un peu contre le cours du jeu, généralement on allait accrocher un match nul ou pas plus. Et en fait là, il y a eu une certaine force de caractère à revenir au score. Là où c'était pas le cas avant, et en fait c'est un match d'ouverture de l'Euro. En fait, les grandes équipes, elles vont monter en puissance, un peu comme la France hier. Ils ont été mauvais, mais on sait très bien qu'ils vont monter en puissance. L'Angleterre, ça va être pareil, et le Portugal aujourd'hui, ce qui comptait, c'était de gagner. Ils sont revenus au score après avoir pris un but, et je pense que ça va les aider vraiment à aller plus loin dans la compétition. Maintenant, sur Roberto Martinez, tout à l'heure j'ai rigolé quand je vous écoutais parce que Roberto Martinez, vous l'avez un peu descendu. Je trouve un peu facilement, parce que Roberto Martinez, quand il était à la tête de la sélection belge, lors de la Coupe du Monde que la France a gagnée, faut pas oublier que lors de la demi-finale Belgique contre France, en vrai, alors peut-être qu'après je regarde un peu tout ça d'un point de vue externe, mais la Belgique a quand même dominé la France, et ils étaient à deux doigts de passer en finale sans un grand Hugo Lloris, et on était à deux doigts d'adjuler Martinez parce qu'il emmenait la Belgique en finale, et moi je trouve que c'est un très bon choix pour le Portugal de mettre Martinez, parce que pour moi c'est un grand coach, vraiment.
T'aurais pas préféré un Portugais ?
J'aurais adoré que ce soit José Mourinho, malheureusement ça ne l'est pas, parce que moi je suis un grand fan de Mourinho et du FC Porto, mais quand Martinez a été élu à la tête de la sélection portugaise, j'étais très content, mais plus content parce que Fernando Santos s'y dégageait déjà, parce que lui j'en pouvais plus du tout, mais quand Martinez est arrivé, moi j'ai senti
un... Et t'aurais pas aimé un Jorge Jesus, un Amorim, un mec comme ça ?
Jorge Jesus, José Mourinho, Ruben Amorim, j'aurais aimé...
Ah, c'est pas aussi la même façon de jouer quand même, hein ?
C'est pas la même façon de jouer, mais de là à dire que Martinez c'est un tocard et que...
Non, mais moi je te dis pas que c'est un tocard, pas du tout. Moi je dis qu'en fait cette équipe, elle me fait tellement rêver parce que les joueurs, je les trouve tous formidables, que parfois j'aimerais que ça, je sais pas, que je comprenne un petit peu plus ce qu'elle veut faire réellement.
Et puis sur l'aspect psychologique, admettons, c'est le point que tu développes et où t'as pas tort sur cette résilience là du soir. Mais tu sais ce qu'elle me donne comme impression, cette équipe, elle me rappelle l'équipe de France de l'Euro 2000. Elle est suffisamment forte, les joueurs sont suffisamment forts eux-mêmes, avec des grandes stars et des mecs anciens comme Pepe et Cristiano, avec des gars d'expérience, avec des gars costauds comme Ruben Dias, que honnêtement, Martinez ou pas, quand il y a un 0-1, un partout, c'est les joueurs qui vont chercher tout ça. Tu sais, je l'ai souvent dit avec l'Euro 2000, avec Roger Lemaire, là, à ce moment-là, c'est plus le sélectionneur. Donc, je suis pas certain de ton analyse sur, avec Santos, il y aurait peut-être eu un partout, je sais pas. Ce que je veux dire ce soir, c'est que sur le terrain, les joueurs se sont pris en main tout seuls. C'est qu'il y a Pepe qui est le patron derrière, Cristiano qui est respecté devant. Tous les mecs, à chaque poste, j'ai vu Nuno Mendes, état d'esprit de combattant. Moi, je pense que c'est pas Roberto Martinez. Donc, je pense qu'il fait plus de mal, ou du moins, il fait pas assez de bien tactiquement. Pour le reste, t'inquiète pas que cette équipe, elle a un mental de dingue. Ils ont des mecs qui se commandent tout seuls. Je pense que là, on est dans le cadre de, d'ailleurs, ce que Mourinho a très bien décrit quand il disait qu'il avait besoin de leader, tu sais, dans le vestiaire, et que quand tu en avais un vrai, pas un capitaine, hein, il disait bien un leader, tu as gagné, tu as un coup d'avance. Et il prenait cet exemple, lui, je sais plus dans quelle équipe à Porto qu'il avait dirigé, où il disait que parfois il reste en dehors du vestiaire, il laissait le leader faire le job. Et là, quand t'as Pépé dans le vestiaire, à mon avis, ou sur le terrain, là, dans une situation comme celle-là, t'as pas besoin d'un sélectionneur comme, enfin, je veux dire, c'est pas lui qui va faire la diff.
Ouais, mais peut-être que tu vois, à l'époque de Fernando Santos, justement, je sais pas comment ça se passait dans le vestiaire, mais moi, en tout cas, de mon point de vue, je trouvais qu'il y avait pas, malgré les joueurs qu'il y avait, comme Pépé, il était là à l'époque, Ronaldo, il était là à l'époque, t'avais même des joueurs comme Quaresma qui avait une certaine aura dans le vestiaire avec Ronaldo, il y avait pas forcément ce truc, tu vois, que là, en fait, Martinez, il est arrivé, c'était sur une série de 10 victoires consécutives pendant les qualifications, et en fait, tout ça, Alors effectivement, Martinez, c'est peut-être pas lui qui est à l'origine de la remontée aujourd'hui, mais en fait, depuis qu'il a pris sa prise de pouvoir, en fait, il y a quand même eu un nouveau souffle, il y a quelque chose qui a été apporté, il y a une autre façon de jouer également qui a été là. À l'époque de Fernando Santos, je vais être honnête, je me faisais chier devant un match. Mais vraiment, et pourtant, je suis un grand fan du Portugal avec ses grands joueurs. Aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai adoré le football qu'ils ont proposé, mais ils ont dominé 80% de la rencontre, il y a eu quelques occasions aussi, donc... Je sais pas. En tout cas, je trouve que malgré le fait qu'ils aient pas proposé un grand jeu, Martinez a quand même apporté quelque chose.
Il y a une vraie question qui se pose pour le poste de sélectionneur du Portugal.
Il y a une vraie question. Et juste parce que je sais que mon temps est compté à l'antenne. Juste Daniel Riolo, je t'ai entendu dire un truc qui m'a pas plu non plus. T'étais en train de fracasser Pépé. Et Pépé, 41 ans, je sais pas si t'as vu sa saison avec Porto. C'est vrai qu'il a loupé quelques matchs, mais il a fait un super match contre Arsenal. Il a été super bon.
Alors, c'est le docteur Riolo, il a estimé qu'il avait 53 ans. Parce qu'il estime aussi l'âge de ses patients.
Incroyable.
Moi, j'ai un problème avec les vieux comme ça. Non pas pour la qualité, je suis d'accord avec toi, et tout ce que tu veux, sa carrière et les matchs, certains cette année. C'est que je pense, au bout d'un moment, que quand tu as une sélection, par définition, justement, une sélection, que tu as donc du choix pour prendre d'autres mecs, on sait très bien, c'est comme avec Nice ou quand t'as ce genre de mec âgé, t'es obligé de faire une compo en t'adaptant à leur état de santé, à leur état de forme. Et que peut-être que si tu le mets pas, tu peux jouer différemment et t'es pas obligé de jouer en fonction de ses qualités de vitesse qui ont baissé. Tu comprends ce que je veux dire?
Alors justement, tu mets qui à sa place s'il y a pas Pépé? À côté de Rubén Dias?
Est-ce que tu penses qu'il joue à 5 parce qu'il y a Pépé?
Non.
Non, mais je veux dire, on enlève Pépé sur le fait que, ok, tout ça, mais qui, Antonio Silva, Ignacio?
Mais je pense que le Portugal a assez de joueurs pour que... tu penses que Pépé, c'est vraiment, encore aujourd'hui, le gars qui est incontournable?
Alors, c'est plus le même
que... Il y a Danilo, par exemple, qui n'a pas joué ce soir.
Moi, aujourd'hui, j'ai le choix entre Danilo, Antonio Silva, Ignacio et Pépé, mais sans hésiter, les yeux fermés, je mets Pépé, parce que j'ai suivi tous les matchs du FC Porto cette saison. Et je sais que le mec, il est meilleur qu'Antonio Silva, il est meilleur qu'Ignacio.
Bon. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Cristiano?
Bon, c'est un autre débat, mais après Cristiano, je suis pas pour le fait qu'il soit encore là en sélection, malgré le fait que j'adore le joueur. Mais je l'ai pas. Enfin, c'est un Cristiano qui a été transparent, clairement. Enfin. Je suis pas fan de Cristiano en sélection en ce moment.
Oui, alors merci. Oui.
Ça c'est peut-être la vraie grande question, parce que pour le reste, très honnêtement, si Roberto Martinez gère correctement, l'équipe ira sans doute assez loin, parce que effectivement, il y a du talent.
Antonio a raison sur les premiers matchs. Hein,
ouais, absolument. Pas de souci. Ils sont sortis du piège. Il y a rien à dire. Ils ont dominé. Ils méritent leur victoire. Après, la vraie question, effectivement, dans le cours de l'Euro, ça va être quand même Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire de savoir si t'es capable de faire une compo sans lui et de ne pas systématiquement le mettre. Par ailleurs, aujourd'hui, par exemple. Tu vois, j'aurais bien vu João Félix, par exemple, en entrée, à un moment donné où le Portugal avait besoin de marquer. Et c'est vrai que, tu vois, Bernardo Silva, il aurait pu sortir, tu vois, aussi, à un moment donné.
De toute façon, ils ont tellement de joueurs, ils ont un banc.
Tu vois, t'as João Félix sur le banc, qui ils marque quand même souvent
en
entrant.
En neuf, t'as Ramos. Ben, c'est étonnant. Que tu peux alimenter en ballon, vu les mecs que t'as, en joueur de côté, entre Léao, bon, qui est vraiment un joueur qui est pas terrible dans la domination, tellement lui, il a besoin d'espace, c'est un joueur de contre-attaque. João Félix, Bernardo Silva qui peut jouer au milieu, sur le côté. En fait, leur réservoir est tellement énorme. C'est peut-être parfois un handicap.
C'est vrai que João Félix n'est pas rentré ce soir.
Ouais, il n'est pas rentré.
Gonzalo Ramos n'est pas rentré.
Moi,
Ruben Neves n'est pas rentré.
Tu te rends compte tout ce qu'ils ont?
Ouais. Danilo Pereira. Le banc, tu vois, ils ont aussi ça. Ils ont aussi ce genre de joueurs. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est assez surprenant par rapport
Antonio
à un bloc bas.
Silva, c'est pas un bon défenseur aussi. Enfin, je sais pas, moi, ils ont trop de joueurs, en fait.
Tu vois, effectivement, le fait de mettre Léon, sur un match comme ça, alors qu'effectivement, sur un bloc bas, c'est plus compliqué, de pas faire rentrer João Félix. Effectivement, je pense qu'il y a des questions qui se posent sur le coaching de Roberto Martinez. Mais la question, l'unique, quelque part, enfin, la première, ça va être effectivement la gestion du carnaval de Cristiano, qu'est-ce que tu fais, tu vois, parce que là, ce soir, moi, par exemple, dans ce match-là, je préfère voir Gonzalo Ramos en 9
que Cristiano, tu le prends pas dans la liste.
Oui,
pas le prendre pour le mettre sur le banc.
Donc, en fait,
Donc, tu te condamnes en le prenant.
Tu te mets une boule au pied en te disant, il faut qu'il soit performant, on y croit encore, il est là, on y croit encore, il est là. Voilà.
Tiens, on va demander à Tony ce qu'il en pense pour conclure sur le Portugal. Salut, Tony.
Bonjour.
On était sur Cristiano, là, ton avis à toi?
Ah bah justement, c'était l'un de mes avis tranchés, c'est qu'aujourd'hui je suis pas pour que Cristiano soit en sélection. Après, je suis d'accord avec ce que tu disais, Gilbert. Si tu le prends en sélection, c'est pas pour le mettre sur le banc, c'est pas pour être un super sub, c'est pour qu'il soit sur le terrain. Donc à partir du moment où il est là, maintenant il va falloir faire avec. Mais moi j'aurais préféré aujourd'hui voir un Félix ou un Ramos sur le terrain. Ouais. Et surtout pareil pour Léao, je suis totalement d'accord avec Daniel Riolo. Aujourd'hui, Léao, oui, il va vite. Et pour reprendre une expression de Daniel, pour moi, c'est un tout droit. C'est-à-dire que dès qu'il faut faire
droit,
la dernière passe,
j'ai jamais dit ça de Léao, je le dirais pas. C'est quand même pas un tout
non,
droit.
Non,
c'est...
je disais pour reprendre une de tes expressions.
Ah, j'ai pas dit non, mais c'est pas. C'est Léao. Attends, Léao, c'est pas que un tout droit. C'est un joueur très complexe.
Mais j'ai pas dit que
c'est
un tout droit.
Pour répondre à ce qu'il vient de dire, c'est pas le cas. Mais en revanche, là où t'as raison, pour l'avoir beaucoup vu cette année avec Milan notamment.
Ça manque de justesse.
Enfin, non, mais t'as des matchs complètement où il caviare de tout, il vendange tout.
Mais ça, on le sait depuis longtemps, il a cette forme d'irrégularité. Mais
donc tu ressors du match. On va dire qu'il a un match
profil,
tu te dis,
il a un profil.
C'est horrible.
Il a un profil de match dans lequel il excelle. En gros, cette année, je pense qu'on l'a tous en tête, le match contre le PSG avec Milan. À San Siro. Ça, c'est match que lui, il kiffe. Parce qu'il est une équipe qui domine, en gros. Et il va pouvoir avoir l'espace, le ballon en profondeur avec sa vitesse. Ses appels, il est très fort. Il est très fort dans ce registre-là. Quand lui, il est dans l'équipe qui domine, c'est un peu même si ce soir, parfois, il arrive à éliminer.
Mais même dans le contexte que tu décris en 1, pour l'avoir vu,
il peut aussi rater, oui.
J'ai vu le match à Rennes, vous le regarderez, je crois que c'est le match à Rennes. Il vendange des tas de trucs, c'est-à-dire qu'il se met dans de très bonnes situations et derrière il rate, il fait les mauvais choix, il donne pas le ballon quand il faut le donner.
De toute façon, on va en parler tout à l'heure avec Dembélé. Le football aujourd'hui est plein de ce genre de joueurs-là. C'est les joueurs de percussion. Les entraîneurs en veulent dans leur équipe parce que c'est des gars qui te font des différences. Très peu sont réellement réguliers dans ce secteur-là. Et la liste de ce genre de joueurs-là sur les 10 dernières années, elle est énorme. Si tu fais la liste des joueurs de percussion, les fameux joueurs cotés, en fait, c'est la grande mode depuis plus de 10 ans dans le football. Et ce genre de joueurs, avant d'en trouver un, bon, on va dire que Mbappé a été le pavillon témoin du joueur de ce style-là, mais tu t'aperçois aujourd'hui à quel point, entre, comme j'ai l'habitude de dire en ce moment, entre 2017 et 2023, il a été au-dessus de tout le monde dans ce registre-là. À côté de ça, on a eu une flopée de mecs qui, au final, ont été excessivement irréguliers dans ce genre de joueur-là. Et quand on parlera de Dembélé tout à l'heure, on est à peu près dans ce descriptif.
Tony, t'habites où ?
J'habite à Ville-Laure, proche de Marseille. Enfin, plus proche de Aix, mais dans le sud, ouais.
Alors, j'ai un message pour toi. Notre spectacle After remonte le temps. Après une première étape à Paris, il va arriver bientôt à Marseille et à Saint-Etienne. Donc, le 20 décembre prochain, on sera à Saint-Etienne.
Ouais, ça va, c'est pas demain.
Ah non, à Marseille. Oui, c'est pas demain, mais il faut s'organiser.
Le 20 décembre à Marseille, juste avant Noël.
Et en janvier 2025, on sera à Saint-Etienne. Donc, à Marseille, ce sera au Silo, le 20 décembre. Et
on prépare la bûche.
Oula, janvier à Saint-Etienne.
Et 10 janvier à Saint-Etienne, à l'Opéra de Saint-Etienne.
On a pensé à la température ?
T'inquiète, c'est à l'intérieur, hein, tu ne seras pas dehors pour faire le.
Avec la neige, on peut arriver.
Donc, Tony, si tu veux venir, tu es le bienvenu dans le forêt.
Ah bah, avec plaisir. Voilà. Et je voulais revenir, si j'ai encore 5 minutes, sur l'avis de l'auditeur précédent. Et je ne suis pas complètement d'accord sur son analyse concernant Fernando Santos, qui disait, que justement, quand le Portugal était mené, ils n'avaient pas le caractère pour aller chercher des victoires. Mais moi, je tiens à rappeler que l'Euro 2016, on n'a pas été le chercher avec un jeu flamboyant. Et au contraire, on a été chercher cette coupe avec.
C'est peut-être bon signe quand vous ne jouez pas bien.
C'est ce que j'allais finir par dire. C'est que quand le Portugal est en difficulté, et tu le disais tout à l'heure, Daniel, le Portugal a eu tellement de grosses générations qui n'ont rien fait que finalement, quand le Portugal aujourd'hui est en difficulté, c'est peut-être un bon signe. On verra, mais j'espère que le Portugal ne me fera pas mentir. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je suis content de la victoire, mais je suis quand même assez inquiet du match, parce que c'était quand même un match assez stérile, c'était une possession qui était complètement stérile. Ce que je disais au Standard tout à l'heure, j'avais l'impression de décrire un match de l'OM avec des passes latérales quand ils essayaient de lancer des joueurs des appels ou qu'ils essayaient de passer des ballons dans le dos de la défense, il y avait des erreurs techniques vraiment très frustrantes. Et donc voilà, c'était pour moi, ça, je suis quand même pas hyper rassuré du match de Portugal aujourd'hui malgré la victoire. Hein, et j'en suis très content et ça m'a fourni beaucoup d'émotions, surtout le but à la fin du match. Hein, malgré tout, c'est pour ça qu'on aime le football, mais bon voilà, je suis pas hyper rassuré quoi.
Merci Tony. Et puis pour le spectacle, tu vas sur le site afterfootlespectacle.com. Hein, la billetterie est ouverte. Dans un instant, on dit un mot de la République tchèque. Ensuite, le match entre la Turquie et la Géorgie. Ensuite, l'équipe de France. L'after est là jusqu'à 12h30. Et ensuite, ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin, comme tous les soirs de l'Euro.
RMC jusqu'à 12h30. L'afterfoot intégral Euro.
Gilbert Bribois.
23h38, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, avant de parler de l'équipe de France, avant de parler de Géorgie-Turquie, on va parler de la République tchèque, mais juste avant, Florent, figure-toi que comme notre cellule enquête était sur le dossier, on a en exclu...
Sur le nez
Non, on a en exclu...
En fait, j'ai pensé...
On avait placé des micros dans la salle d'opération du docteur Maboul Riolo, et sa dernière opération, c'était ce matin, écoutez, on a l'extrait.
Vous voyez bien la fracture.
On voit très bien la fracture, en effet. Et ici, par contre, vous voyez comme ça, très bien réussi, la pose des broches, avec cicatrisation impeccable. Il a un pied gauche tout neuf.
Non, droit.
Non, gauche, hein, c'est pied gauche.
De droit. Mais non, c'est-à-dire, c'est le pied droit.
Non, mais ça, c'est le pied droit.
Qui était cassé.
Oui, oui.
Voilà. Sketch des inconnus célèbres.
Mais oui, le truc des inconnus, j'ai oublié ce truc.
Pied gauche nickel. Ah, mais c'était le droit qu'il fallait opérer.
Et en fait, en regardant les messages, je me suis aperçu que DR, c'est docteur.
C'est vrai. Mais c'est pour ça, je me lance.
C'est ça l'escroquerie. Je dirais même que c'est la base de l'escroquerie.
La base
de l'escroquerie, c'est juste les initiales, en fait. Le mec s'est réveillé un jour, il a dit mes initiales, c'est docteur. Et il est mis sur une blouse DR.
En fait, DR, c'est Didier Raoult.
Non, mais là on n'est pas obligé, là. Ouais.
Ah ouais. T'es plus proche de Didier Raoult.
En fait, tu devrais te souvenir que finalement, c'est pas ma première tentative. Parce que, rappelle-toi, j'ai déjà essayé ce truc-là plusieurs fois sur les ruptures genoux. Tu te souviens pour Terrier?
Oui.
Je me rends compte qu'en fait, je suis en pleine tentative d'évolution de carrière.
Enfin, sur Terrier, tu sais ce que tu nous dis sur les genoux, toi? À chaque fois, tu dis, ça va être dur et long de revenir. Enfin, bon, et là, il n'y a pas d'être médecin. C'est genre au café du commerce. Le mec dit, non, les mecs, t'as vu, il a crié fort non. Et il a eu mal. Hein. Ça va être dur et long de revenir. Non, là, merci, Daniel.
Je te trouve un petit peu dur parce que je t'avais dit que Terrier, quand il reviendrait, il y a des mecs parfois qui ne retrouvent jamais exactement leur état de forme.
Bon,
et Terrier, il a du mal.
Laissons le docteur Maboul dans son cabinet. Alors, et accueillons Lazare.
Ce que je préfère.
Je suis le docteur
Kubler. Accueillons
Lazare de football ski.
Ce que je préfère, c'est tes diagnostics à travers l'écran.
Le spécialiste de tous les pays.
Mais Lazare, lève-toi et marche.
Salut Lazare.
Toujours la même blague.
Excuse-moi, sur Lazare, je pourrais toujours te dire d'aller prendre le train, mais j'en aurais pas d'autres.
Bon, je rappelle que sur football ski, évidemment, il y a tous les footballs des ex-pays de l'Est. Enfin, c'est toujours les pays de l'Europe de l'Est, après tout. Géographiquement parlant.
Mais ils se sont quand même débarrassés de la peste. Rien. Le communisme.
Oui, après, il y a d'autres pestes qui peuvent s'installer, tu sais.
Ah, ça, c'est oui.
Dans certains pays, en l'occurrence.
C'est vrai.
Lazare, les Tchèques. Alors, déjà, leur gardien, qu'il arrête de la jouer, il faut qu'il arrête de se prendre pour Neuer, qu'il bloque les ballons. Bah, il n'aurait pas encaissé le premier but.
L'égalisation, elle est pour lui.
Bah exactement.
Une espèce de sortie moisie sur le tibia du défenseur.
Bah oui, il bloque le ballon, une petite tête toute molle là.
Tu peux taper sur le Hranec autant que tu veux, il fait un match exceptionnel, surtout pour un gars qui a 24 ans. Mais Stanek, à un moment donné, il va falloir qu'il capte les ballons. Parce que c'est ça, justement.
C'est exactement ce qu'on dit.
Et de la même façon, sur le deuxième but, c'est Tsoufal qui se foire totalement.
Ah mais ça c'est pareil, tu vois, cette façon de défendre, cette façon de défendre à genoux.
Totalement perdu.
Alors que tu dois dégager pied droit ouvert, comme font tous les défenseurs centraux sereins. Moi, je dirais que c'est presque des fautes de fébrilité plus que des fautes techniques. C'est-à-dire que, tu vois, ce que fait le gardien et ce que fait le défenseur sur le deuxième but portugais, déjà, t'aurais jamais dû avoir autant de ballons là dans cet endroit de la surface. Il y en a eu d'autres. Ils ont été quand même mal là-dessus. Mais c'est de la fébrilité avant tout.
Un manque d'expérience. Lazare, oui. Pendant tout le match, t'as une équipe au bord de la rupture sur quasiment la première mi-temps. Bah d'ailleurs, on dit que les jeunes n'ont plus trop d'attention, donc on pourrait carrément arrêter de jouer la première mi-temps. On commence directement à la 60e avec les changements d'entraîneur, une fois qu'il a compris que sa composition était pas très bonne, on va dire. Et tu commences donc avec les changements, une équipe un peu nouvelle, et là directement, tu as du jeu. Forcément, deux minutes après avoir viré ton attaque, qui était casperienne, pour reprendre une expression de l'after, on retrouve dans ce cas-là un but, et forcément, à la suite de ça, le match se débloque, et les deux équipes commencent à jouer. Bon, le problème, c'est que tu as une équipe de République tchèque qui n'est pas du tout construite pour envoyer du jeu, on l'a vu. Ils ont 30% de possession. Ils sont là pour les duels et pour physiquement venir casser, pas casser, mais venir s'imposer et être présent sur le terrain. Et donc, forcément, quand au bout d'un moment, tu as un peu moins de plus de fatigue ou que tu as un sous-check qui n'est pas à 100%. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait l'avis du docteur là, sur quel est le problème physique de sous-check. Mais
j'ai pas bien regardé.
Forcément, ça te complique quand ton meilleur joueur est pas là.
Daniel est capable de dire qu'il est inapte au football, mais il faut se méfier quand même. Si tu l'as pas trop regardé et que tu dis qu'il est inapte pour sa fin de carrière,
je peux pas me prononcer là.
On va regarder le match cette nuit.
Je rappelle que le sélectionneur de la République tchèque est une légende du Racing Club de Strasbourg.
Absolument. Ouais. J'ai pensé à toi.
Ivan Hašek. Et il a un peu abusé sur la choucroute depuis la fin de sa carrière.
Qui d'ailleurs, vous l'avez peut-être pas, mais quand le club a été repris à l'époque par les actionnaires alsaciens, dont Marc Keller, il faisait partie des actionnaires. Il n'était pas alsacien, on va dire d'adoption. Et voilà, il a été un des actionnaires du club aussi, Ivan Hašek.
Il jouait en défense centrale.
Histoire. Exactement, avec un autre tchèque qui s'appelait Vašušek.
Imagine, il aurait pu jouer avec Jean Kulowski.
Bien sûr.
Et pour la petite histoire, il voulait jouer l'équipe de France en amical pour préparer l'Euro, qui a été refusé par la Fédération française.
Ah bon ?
Il a utilisé ses contacts là pour.
Et on a préféré jouer contre le Canada et Luxembourg, nous. Français.
Et ouais, il a l'ancien entraîneur physique de Nice pour faire la préparation physique.
Absolument.
Dis-moi, Lazare, puisqu'on t'a là, on a vu toutes les équipes, il y a beaucoup d'équipes de ta zone là, et finalement c'est une des équipes qu'on attendait le moins, qu'on a le plus vu, c'est la Roumanie.
Alors c'est une très bonne remarque, il faudrait que tu parles avec le spécialiste Roumanie, j'ai assez peu de connaissances sur le sujet, pour le coup, je pense qu'ils ont peut-être surpris plus d'une personne, mais ils ont fait une très belle performance face à des Ukrainiens qui ont surtout montré qu'ils avaient peut-être du talent, mais qu'ils n'étaient pas une équipe.
Tu couvres la Géorgie aussi ? Avec Footballski ?
Surtout plutôt les boîtes de nuit en Géorgie. Mais,
Bah c'est connu les boîtes de nuit en Géorgie.
On s'amuse bien.
Ah bon ?
On mange bien, on boit bien, on fait bien la fête en Géorgie, c'est sympa.
Ah d'accord.
Okay. Ah voilà, une destination vacances, donc peut-être pour les fêtards.
Oui, mais ça va être pour toi, Gilbert, alors.
Je suis déjà allé, moi.
Ah, mais toi, ça m'étonne pas.
Un match Géorgie-France en 2004, but de Vieira.
Très bien. Ça date, il paraît que c'est mieux maintenant, tu devrais y retourner.
Bah, c'était il y a 20 ans.
Ouais. Et en 20 ans, les choses changent. Mmh,
peut-être. Lazare, rappelle
que. Faire un petit tour cet été à Batoumi, c'est sympa.
À Batoumi, c'est bord de mer, ça, non ?
Exactement.
Bernois.
C'est l'ancien club de Grèchka.
Bah voilà, voilà les conseils de Lazare. Tout ça sur footballski.fr.
Joueur du PSG.
Merci Lazare pour ces quelques minutes d'analyse footballski.
On parle de la mer en noir, évidemment, on ne peut pas s'empêcher.
Salut Lazare, à bientôt.
Salut Lazare. Pensez à cet épisode mythique de questions pour un champion.
Ah.
La mer noire. Tu ne vois pas de ce truc ?
Ah si, ça y est.
C'est extraordinaire.
Il se trompe 10 fois.
C'était fantastique. Fantastique séquence.
Dans un instant, Turquie-Géorgie, on dit ce qu'on en pense et ensuite on passe à l'équipe de France. L'after continue jusqu'à 12h30. Je vous dis donc à tout de suite.
RMC jusqu'à 12h30. L'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h49, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, on va débriefer le match Turquie-Géorgie. On est avec Efe qui est le boss du site ActuFoot Turquie. Donc, autant dire que là,
exactement, bonsoir à tous.
Salut Efe et bienvenue. On te retrouve vous sur les réseaux sociaux
Ouais, exactement, sur Twitter, sur X. Donc on a une page qui relaie l'actualité des footballeurs turcs, que ce soit dans le pays ou à l'étranger. Et donc là pour l'Euro, on fait un gros focus sur la sélection.
Turquie-Géorgie, franchement, ça a été un des plus beaux matchs de l'Euro.
Ouais, très bon match.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Beaucoup de tirs, une grosse ambiance. Ouais. Il y avait vraiment une vraie, bah, vraiment l'euphorie de l'Euro. Et ça se ressent aujourd'hui chez les fans turcs. C'est vraiment l'euphorie.
Il y a eu 36 tirs dans ce match.
Exactement, c'est énorme.
36 tirs pour la Turquie, 14 pour la...
L'équipe qui a proposé plus de jeux que l'équipe de France.
Oui.
Willy Sagnol qui a été sélectionneur des espoirs, on s'entend.
Non, mais c'est une question. Hein. Moi, j'affirme rien.
Bon, alors la Turquie, souvent on l'attend et souvent on la trouve pas. Là, peut-être que ça va être une bonne année. Là.
C'est vrai qu'en général, elle a ce statut d'outsider, un petit peu d'équipe surprise qui est assez attendue, mais qui déçoit souvent. Là, pour le coup, ça fait depuis 2016, enfin un bon début. Donc on est assez optimiste, on verra bien. C'est vrai que ce match l'a mis en confiance, il y a eu beaucoup de bonnes surprises, mais quand même quelques déceptions. Donc je pense que le match reste quand même à nuancer.
En fait, moi je trouve qu'ils s'en sortent bien quand même parce que par rapport à toutes les
grosses équipes, les grosses occasions en plus.
La Géorgie a des occasions et surtout par rapport aux grosses équipes, et la Turquie ne fait pas partie des favoris de l'Euro, elle avait un adversaire ultra piégeux. C'est-à-dire que là, ils avaient un adversaire qui jouait, Mikotadze a marqué, ils auraient pu marquer le deuxième.
Pas fait que, parce que tu viens dans l'interview qu'on a faite avec Sagnol juste avant où il disait oui. Nous on va y aller surtout. Il était un peu plus prudent dans son approche, en disant qu'il ne se voyait pas faire le jeu dans beaucoup de matchs et tout ça. Je trouvais que l'équipe était beaucoup plus ambitieuse que ce que nous avait vendu.
Il y a Gvardz, Kelia, Mikotadze devant.
Il y a un beau duo devant.
Il y a un beau duo. Puis même, j'ai trouvé que à la fois leur réaction et collectivement, là pour le coup, il y a un collectif parce qu'il y a Gvara effectivement. Qui effectivement dans ses percussions est quand même super intéressant quand il revient intérieur là. C'est vraiment une arme incroyable. Mais après, j'ai trouvé que la Turquie justement par rapport à cette opposition et à ce piège qui se dessinait, je les ai trouvés très forts. Puis quand même, ils Arda Güler.
Son but.
Son but est quand même dingue. Ah, c'est quand même.
Il est connu pour.
C'est le tournant du match.
On l'attend au très haut niveau, ce joueur.
Non, mais ouais, c'est bien justement, tu vois, que dans une grande compète comme ça, dans un match d'ouverture où justement les Turcs. Honnêtement, je reparle du piège parce que si ce soir tu fais match nul ou tu perds contre la Géorgie, tu aurais le discours justement sur cette Turquie qui n'y arrive pas, qui est l'outsider qu'on n'attend pas. Et là, Güler, il est. Déjà, le premier but est magnifique aussi d'ailleurs. Mais le but Güler, pour moi, est un tournant à la fois pour lui, pour la Turquie, sachant que tu te qualifies presque, enfin, à 75% avec une victoire au premier match, ils ont fait un gros truc là.
Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que son but, c'est le tournant du match, hein, très clairement. D'ailleurs, après celui-ci, c'est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, donc c'est vraiment une stat qui est pas mal, je trouve. Et puis, au-delà de ça, je pense pas que les projecteurs doivent être seulement braqués sur lui. Ferdi Kadıoğlu a fait aussi un très très gros match en tant que latéral gauche, en attaque comme en défense. D'ailleurs, c'est lui qui a été l'un des grands artisans du but aussi de Mert Müldür, qui est pour moi aussi magnifique que celui d'Arda. Et même en défense, on avait des doutes sur Samet Akaydın, joue au Panathinaikos en Grèce, je crois.
C'est ça.
Et qui a fait vraiment un match de patron. Son sauvetage à la fin du match a permis de conserver le score. Donc vraiment. Plutôt agréablement surpris de cette équipe. Ouais.
Alors un truc qui est plus global à l'Euro et qui a eu lieu sur le but Güler d'ailleurs, que je remarque sur les relances de certaines équipes, des buts suite à des mauvaises relances. Puisque tu sais, on cherche de plus en plus à relancer, ça vient d'une volonté globalement de faire du jeu. Alors il y a les fameuses relances courtes, on en a vu déjà depuis le début de l'Euro, et elles sont sanctionnées par quoi? Notamment par des frappes. Et c'est un euro où on retrouve des frappes un peu des buts hors surface et des belles frappes et c'était le cas là avec la Turquie et c'est assez intéressant de regarder, c'est à la fois la volonté de relancer et parfois aussi comme les Anglais qui ont pris le biais inverse de se dire on va pas prendre non plus de risques inutiles dans la relance courte et on va balancer. Alors parfois c'était un peu trop et on en a parlé, mais en tout cas dans les relances sur cette histoire de relance sur les buts provoqués, il y a eu beaucoup de buts quand même dans cet euro aussi provoqués par ces problèmes de relance qui sont un petit peu devenus des relances obligatoires, tu sais, où il faut essayer de relancer propre et qui sont sanctionnés par des frappes hors surface.
Est-ce qu'on s'enflamme en Turquie? On se dit on peut aller loin ou on reste mesuré parce qu'on a connu quelques déconvenues?
Alors, très clairement, il y a de l'espoir. C'est vrai que là, on sent que c'est pas pareil qu'en 2021 et en 2016. On se dit que le vivier de talent est différent, qu'il y a vraiment plus de profondeur. dans l'effectif et qu'il y a un nouveau système avec le nouveau coach là, Montella, qui prône un jeu qui justement qui est assez offensif et qui correspond bien à l'effectif de la Turquie. Donc ouais, il y a un optimisme ouais depuis le match. Les rues sont pleines à craquer dans les rues à Istanbul. Enfin vraiment faut voir. Il y a une sacrée ambiance même à Dortmund dans les rues. C'est vraiment pas mal.
Bon. On a toujours eu, en général, les sélectionneurs qu'on connaissait, là, les Fatih Terim, Senol Gunes, tout ça, là. Avoir des sélectionneurs étrangers, c'est pas un truc naturel pour la Turquie, non ?
Pas trop. Bah, dans le passé, il y a quand même eu Lucescu, un Roumain qui était passé.
Lucescu, il a entraîné 25 ans à Galatasaray. En même temps, on va dire qu'il était assimilé.
Ouais, évidemment, il y a un passé avec la Turquie qui fait que, voilà, tout comme... récemment, avant Montella, il y avait Kuntz qui avait gagné l'Euro U21 avec l'Allemagne. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas dans les habitudes de la Turquie de ramener des coachs étrangers. Là, Montella, c'est un choix qui a été assez surprenant, c'est vrai, au début. Car il avait une très courte expérience en Turquie à l'Adana Demirspor. Mais pour le moment, visiblement, ça a l'air de payer dans les matchs officiels. Donc on voit ça plutôt d'un bon œil, ouais, malgré tout.
François, on te retrouvera durant l'Euro si tu veux bien. Je renvoie vers ton compte X, donc ActuFoot Turquie.
Turquie Portugal.
Effet, merci.
Exactement, un gros match qui arrive.
Ouais. Turquie Portugal, ça va être sympa.
Confiance avant. Ouais, ça va être vraiment un gros match. Surtout que la Turquie là, vu qu'elle a gagné, il y a plus grand chose à perdre, donc j'attends un gros match.
Samedi 18.
Merci Effet.
Samedi 18h.
Merci, bonne soirée à vous.
Ciao. Tu peux garder là parce que c'est pas mal.
Samedi 18h.
Ouais.
Ouais, c'est pas mal. Oui, je disais François, parce qu'on a François au 32-16 qui était au stade. Salut François.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Tu sais qu'il t'a assisté aux bagarres là, parce qu'il y a eu des bagarres entre supporters avant le match.
Dans la tribune.
On les a vus au loin. Voilà, j'étais dans l'autre tribune. Elles étaient côté tribune géorgienne. On les a vus, on a vu la police arriver. Mais après, j'ai pas vu grand chose d'autre.
Bon. Sinon, la qualité du match, l'ambiance et tout, c'était comment ?
Ah bah la qualité c'était déjà mieux que ce que j'ai vu hier soir à Düsseldorf. Moi j'étais vraiment impressionné par ce qu'a proposé la Géorgie pour son premier match à l'Euro, avec un plan tactique vraiment suivi tout le match. Il faut vraiment féliciter le travail que fait Woody Sagnol avec cette équipe. L'ambiance extraordinaire. Enfin c'est un match et pourtant il a plu mais un déluge. Les fan zones à Dortmund ont été fermées. On a même pensé à un moment qu'ils allaient devoir reporter le début du match parce qu'ils sortaient les râteaux pour évacuer l'eau du stade. C'était quand même assez particulier, mais l'ambiance, il y avait au moins 10 000 Géorgiens. Alors Turc devait y en avoir peut-être 30, 40 000 dans le stade. Une ambiance extraordinaire. On peut regretter que les Turcs aient sifflé l'hymne géorgien. Quand même.
Ah, on l'a pas entendu à la télé, ça, tiens.
Ah, bah, je peux dire qu'au stade, on a juste pas entendu l'hymne de la Géorgie. Voilà. Mais une ambiance magnifique, et c'était un très bon match de foot, en plus.
Tu t'es régalé, quoi.
Ah, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir deux équipes qui attaquent, une équipe qui prend des risques, du talent aussi, quand même, des prises d'initiative. Vraiment, c'est régalé. C'était le match où tout le monde nous disait, ah, vous allez voir Turquie-Géorgie. Bah, je suis
c'est pas la fiche a priori
qui
était en balance. C'est comme demain soir, t'as le Écosse-Suisse. Ça fait partie des affiches dans cet Euro où tu te dis a priori comme ça, à part si t'es concerné par les deux équipes, ça va être des affiches seconde catégorie.
À la différence près quand même.
Le Roumanie-Ukraine
était pas mal du tout.
Bah
ça.
Ouais, alors que c'était pas non plus.
Ouais, il y a quand même une différence, c'est l'homogénéité un peu plus grande. C'est-à-dire que demain le Écosse-Suisse sera normalement plus déséquilibré. T'as une équipe plus faible, alors que. Ah si, t'as une équipe faible, elle a été faible contre l'Allemagne aussi, l'Écosse.
Elle a été faible contre l'Allemagne, mais justement, tu peux peut-être t'attendre à ce qu'elle te propose autre chose et qu'elle essaye de se racheter.
Ouais.
Et les Suisses ont pas été déliants dans leur match.
Je pense que les Géorgiens, paradoxalement, ont plus d'arguments collectivement que les Écossais. Et individuellement, il y a effectivement quelques joueurs, mais je suis pas certain que...
François, tu vas voir d'autres matchs ?
Et bah Espagne-Italie jeudi et bah la France évidemment. Donc la France contre les Pays-Bas et la Psyche en espérant que tout le monde suivra le mot d'ordre d'être en bleu pour répondre un peu à la vague hollandaise parce que c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants en déplacement en tout cas.
Ah ouais, donc en fait tu t'es fait ton petit trip euro quoi.
Exactement. Bah évidemment avec la France parce que je fais partie de l'association des iristis français et après bah on essaye de profiter de faire des autres matchs et il y a quand même du beau football à voir. Hein.
Bah écoute,
dans les communautés, t'as raison, t'as les Pays-Bas apparemment qui font toujours fort, t'as les Albanais qui ont été très surprenants en Allemagne, très très nombreux apparemment. Et
exactement.
Qui sont venus, je crois, 40 000 ou un.
Allez. Sa retraite, Clément Dantibes.
On n'a plus de nouvelles. Tiens, François, t'as des news de Clément Dantibes ?
Alors, on le voit moins, je ne saurais pas te dire exactement, mais on le voit moins.
Il a peut-être moins de coqs en stock.
C'est histoire dans le camping.
Et donc, ils ont mis le coq dans une basse-cour en disant, mais votre coq, vous le récupérez à la fin de la Coupe du Monde.
Bah, l'autre, s'il voulait se balader avec un coq, c'est salaud d'avoir.
Et lui, bah, lui, surtout que Clément l'a dit, mais il dit, mets-moi mon coq, je m'en occupe mieux que ma femme.
Taré.
Il comprenait pas.
Ah, d'accord. J'avais pas compris.
Comment tu t'occupes d'un coq? C'est quoi, t'occupes d'un coq?
Tu donnes des graines. Des graines,
c'est un animal de compagnie. C'est un animal de compagnie.
Bah, c'est pas un animal de compagnie.
La poule, le coq. Si, si, bien sûr.
Il y a des gens qui sont très attachés à leur poule et à leur coq.
Ouais.
Bref, dans un instant l'équipe de France, les gars, l'avis de Daniel sur Dembélé, l'avis de Flo également à suivre, les dernières infos sur Mbappé, et puis on va parler droit télé également avant minuit 30. Je remercie François au 32-16. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot intégral euro. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 5, Florent Gautreau et la Daniel Riolo également. L'équipe de France au programme désormais. Avant les avis de Flo et de Daniel, je vous donne les infos du jour. Vous dire que plus de peur que de mal pour Giroud et Griezmann suite au match d'hier. Giroud pourra jouer vendredi, Griezmann aussi. En revanche, Kamavinga a quitté l'entraînement aujourd'hui, apparemment gêné par on ne sait pas trop quoi. Mais pas de nouvelles pour l'instant. L'équipe de France avec les titulaires qui se sont reposés, les remplaçants ont joué un match aujourd'hui contre les jeunes U20 de Paderborn, et la Fédération française nous fait savoir que la France a gagné 7-0 avec notamment un triplé de Barcola. Sachez-le. But également de Colomouani, Fofana, Coman et Konaté. Voilà.
Très bien, c'est parfait ça.
Sinon, l'équipe de France hier a quand même fait un petit carton d'audience. Ça marche toujours.
11,5 millions.
11,5 millions, c'est la meilleure audience
pour un début, c'est fort.
De 2024.
Pour un début, voilà. C'est fort.
Ah, c'est moins bien que le France-Allemagne de l'Euro 2021. Mais bon,
c'est pas la même affiche.
Pas la même affiche, effectivement. Donc, ça démarre bien au niveau de
combien en 2021,
cas, pour,
pas.
L'équipe de France. Pardon.
C'était combien en 2021?
Ah, j'ai le chiffre.
Le France-Allemagne, je crois qu'il était à 14.
15.
Ouais, c'est ça.
15 millions.
Ah, c'est beau. Ah. Mais ça prouve toujours, quand tu dis meilleure audience de l'année 2024, l'attraction du foot.
Exactement.
Et du foot gratuit.
Compétition internationale, le foot gratuit, l'équipe de France, c'est normal. C'est normal.
Deschamps, sinon, il râle parce qu'il estime que c'est pas normal que les Hollandais aient deux jours de récupération de plus que la France. Bon, c'est comme ça.
Donc, il l'a pas dit avant, au moment du calendrier.
Il l'a dit hier soir aussi. Et puis, alors, une petite stat quand même, parce que Mbappé ne jouera pas contre les Pays-Bas, on est maintenant sûr. Et ben, figurez-vous qu'en fait.
On est sûr depuis hier soir, à 23h, quand je l'ai dit.
On est. Il y a un problème, c'est que la France ne gagne pas sans Mbappé.
Ah, bah, tiens, c'est étonnant, ça.
Eh oui. Vous savez, est-ce que vous savez quand est-ce que la France, dans un match à élimination directe comme ça, a joué sans Mbappé le dernier? C'est un match qui date. Hein. Bon, on va pas faire un quiz pendant 25 ans, mais c'est la finale de l'Euro 2016.
Et Mbappé, il était pas là.
Ah, mais depuis lors, Mbappé a fait tous les matchs éliminatoires des Bleus. Vous voyez?
Je comprends pas ton truc.
Qu'est-ce que t'appelles éliminatoire?
Bah, les matchs à élimination directe.
C'est pas élimination directe en poule.
Non, je te parle des matchs à émission directe, les matchs.
Non, tu as de grandes compétitions.
Voilà,
phase finale, grande compétition.
Mbappé, il arrive à la Coupe du Monde 2018.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il a été présent.
Il a tous joué, tu veux dire.
Non, il aurait très bien faire des matchs sur le banc. Tu vois. Comme il en a fait en amical, par exemple. Les récents amicaux sans Mbappé titulaire, il n'y a aucune victoire. Canada, Grèce, Allemagne, Croatie. Chaque fois, la France ne gagne pas.
En gros,
et ceux que tu perds, les deux que tu perds, c'est au péno et c'est avec lui.
Voilà.
Entre la Suisse et l'Argentine. Bah oui, mais on sait que c'est le rouage essentiel de cette équipe.
Avant quand même de vos avis.
Il y en a encore, de plus en plus, bizarrement, il y a des gens en France qui doutent de son côté essentiel parce qu'il a fait une saison moyenne et surtout les six derniers mois. Mais ça reste le joueur majeur de cette équipe. On n'y peut rien. C'est juste une réalité.
Il y a une double réalité. C'est que c'est un joueur majeur, certes, mais c'est aussi le joueur sur lequel on a basé tout le système. C'est ça inquiétant. C'est pas le fait que tout le monde, je pense, s'accorde à dire qu'il est important. Mais quand il est pas là,
le mettre sur personne d'autre, le jeu. T'as pas les qualités pour faire une bonne équipe devant. T'as pas assez de joueurs offensifs de qualité.
Non, mais si tu veux...
On se trompe. C'est lui qui, et en plus, c'est lui qui a donné le style de cette équipe. Le style de cette équipe,
surtout que Deschamps avant l'Euro ne se cache pas qu'il construit autour de Mbappé.
En 2018, le style de l'équipe, le style Deschamps, il se met un peu en place dans ce match contre l'Argentine. Et l'Argentine, tu élimines l'Argentine finalement parce que t'as les deux fulgurances de Mbappé qui laissent sur place la défense argentine et derrière, c'est lui qui fait toutes les diffs. C'est lui tout le temps en fait.
tout a été construit autour de lui. C'est pour ça que je dis que si tu veux aller loin avec un Mbappé moyen, je suis pas hyper confiant. Et comme il est pas vraiment au top, parce que comme tu l'as dit, si vraiment il est au top, hier il rate pas le face-à-face qu'il rate, il joue dans sa position préférentielle en haut à gauche, ce que visiblement pour l'instant il ne peut plus faire. Donc on est obligé de bricoler un autre schéma tactique en le faisant jouer un peu devant, permutation avec le gars du côté, mais le gars du côté il est pas assez bon. Donc qu'est-ce qu'il faudrait mettre? Totalement un mec de côté, donc ne pas mettre Thuram, mais mettre plutôt Barcola ou un Kingsley Coman qui reviendrait. Mais oui, ça, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu un casse-tête pour Deschamps.
La rédaction de RMC Sport s'est amusée à compiler les joueurs de foot qui ont rejoué après des fractures du nez. Sachez que Marcin Bulka, par exemple, le gardien polonais de Nice, avait rejoué 3 jours après une fracture du nez. Diego Costa, lui, à Chelsea en 2016, avait rejoué 2 jours après une fracture du nez.
Ouais, mais
plus récemment, Majer, 18 jours. Bon.
Non, je vais me permettre.
Évidemment, il y a fracture et fracture, on l'a dit hier.
Je vais me permettre d'intervenir dans le nouveau champ de compétences de Daniel.
Oui.
Derrière le mot, il y a toujours plein de trucs. Les gens qui disent, ah, il a une entorse du genou. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans l'entorse? Parce qu'une entorse, c'est de tordre le genou. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'es touché?
Oui, t'as absolument raison. Moi, donc, je te prends comme assistant.
Fracture du nez, oui, mais fracture du nez avec déplacement, fracture du nez,
non, il n'a pas cassé. Il n'a pas l'arête nasale, n'a pas été touché. Il a les cartilages au bout du nez, là.
D'accord. Ouais. Ça, tu l'as vu à distance aussi, non?
Non, j'ai parlé avec un médecin aujourd'hui. J'ai parlé avec un docteur aujourd'hui, un ancien médecin de l'équipe de France, d'ailleurs. Voilà.
Est-ce que ça peut le gêner en cas de tir au but?
Allez, on enchaîne avec vos avis, les gars.
Tout à l'heure, t'as parlé de l'apnée.
Démarrons par la bouche.
Quelqu'un t'a dit à juste titre sur le chat, mais tu sais qu'on peut respirer par la bouche aussi.
Oui, mais c'est pas la même chose. C'est quand même pas la même chose.
Non, mais c'est vrai que si t'as pas. Tu vois Pierre-Alain Fro, ouais, on nous parle de Pierre-Alain Fro sur le nez.
Il y a Bam Bam, l'un de nos modérateurs, qui me propose de chauffer un peu Barcola. Si je faisais un pari sur ses cheveux, ça pourrait peut-être le motiver pour qu'il devienne titulaire et qu'il soit fort. Je peux tenter, moi, je motive également pas mal les joueurs.
On y va pour la vie de Flo ?
Allez.
Jingle.
Ils sont revenus, le morse entre les dents pour venger leur copain blessé. On a perdu.
Morse entre les dents.
Façon hippique.
Alors, tu voulais développer un avis plutôt positif.
Ouais, positif. Une fois la nuit passée, là-bas, à Mâcon, en terre... Griezmannienne. Je me suis dit qu'effectivement dans ce match qui est toujours un peu un match piège, à la fois le premier parce que t'as une équipe en face qui joue dur et qui est plutôt bloc bas. J'ai repensé à un avis que j'avais fait avant l'Euro en disant il y a plusieurs incertitudes dans cette équipe et j'estime qu'hier ce match a levé, alors pas définitivement mais a pu mettre du baume au cœur de Deschamps sur plusieurs points. Maignan. Parce que finalement, Maignan, c'est sa première grande compète avec les Bleus en tant que titulaire. Donc évidemment, on aime tous beaucoup Maignan, mais tu sais, on sait que tout peut arriver dans une grande compète. Et surtout, il sort d'une saison où les blessures l'ont embêté, y compris sa blessure au doigt très récente. Donc voilà, cette petite incertitude qu'on avait levée hier quand même, à la fois, et pas seulement sur l'arrêt, j'insiste aussi sur le fameux jeu au pied dont on disait que ça devait être une plus-value par rapport à Loris. Il est là et dans l'attitude et dans la façon dont les défenseurs le regardent et lui leur parle, parce qu'il a beaucoup parlé visiblement dans ce match, c'est important. Saliba, je sais que Daniel a raison, que c'est sans doute pas le choix numéro 1 de Deschamps, mais il se trouve qu'il est là. Et moi, ce que j'ai aimé, malgré les quelques erreurs, c'est sa volonté de passer parfois juste le premier rideau, l'attaquant en face de lui pour aller faire une bonne relance, une bonne passe, de chercher la bonne passe de qualité. Donc je me dis que d'avoir un Saliba, c'est quand même une plus-value et il est là. Et il est meilleur qu'il a pu l'être en équipe de France à une époque où il a fait une grosse saison. Et puis N'Golo Kanté, évidemment. Parce qu'N'Golo Kanté, c'est quand même le pari réussi de Deschamps. On a beau dire, on l'a pas vu venir.
Absolument.
Il sélectionne un mec. Et le gars, on a plein de doutes physiques, à plein de niveaux. Et hier, à part le côté diesel qu'on a évoqué dans l'after, il y a donc, effectivement, il y avait des doutes comme ça à droite à gauche pour des raisons physiques. Le doute Coman, n'est pas levé. On a des doutes sur l'animation offensive, sur le système, Mbappé aussi. Mais en revanche, défensivement, de savoir que ton gardien, Maignan, un défenseur central, Saliba, et un milieu aussi important qu'N'Golo Kanté sont au niveau et à ce point physiquement en forme, c'est une vraie bonne nouvelle.
Daniel, t'es d'accord ?
Levé d'incertitude.
Oui. Absolument.
Très bien. un avis vite expédié.
Bah, efficace.
Mais je suis d'accord que je vais pas inventer que je suis pas d'accord.
Non, mais c'est vrai.
Quand effectivement, on a tous été soufflés par ce qu'on a vu hier. Alors, on va pas s'arrêter au premier match, on va attendre les autres, mais très franchement, je vois pas bien, à partir du moment où il est lancé comme ça, pourquoi il baisserait en intensité. Donc, ça va devenir un taulier au milieu, un joueur essentiel. Et tant mieux pour les Bleus. Donc moi, pour tout ce qui concerne le bloc défensif, je n'ai aucune inquiétude dans cette équipe de France. Le bloc de 6, on sait que Deschamps, il sait faire ça à merveille. Et c'est en plus ça qui impressionne beaucoup les adversaires. C'est la difficulté de bouger ce bloc et d'aller mettre un but à cette équipe avec un gardien qui fait peut-être plus peur que ne faisait peur Lloris même.
Dans un instant, l'avis de Daniel sur Dembélé et les droits télé dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à 12h30. L'after foot intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. N'oubliez pas que le Libre Antenne arrive dans un petit quart d'heure avec Oussem Loussaïev, Thibaut Jean-Grand, Julien Cazard. Ils sont là. Ça vous laisse un petit quart d'heure pour également faire un tour sur afterfoot.media. Vous aurez les dernières offres de la revue de l'After. Revue de l'After sur les entraîneurs qui est en kiosque et qui marche très bien. Allez vous la procurer. Jürgen Klopp est en couverture. Jingle, Daniel. Tu voulais parler de Dembélé.
La musique du cirque, hein.
Bof.
Ah si, franchement, je trouve que j'étais plutôt à l'aise. Je voulais parler de Dembélé, effectivement. Et poser d'abord une question. Qui se souvient de la dernière fois que Dembélé a fait un bon match en équipe de France? C'est difficile, vraiment. J'ai moins l'impression ça remonte au maillot marinière et à un match amical contre l'Italie où en jouant non pas côté droit mais de l'autre côté, il était allé mettre un but assez incroyable, une frappe lucarne. Bref, j'ai ce souvenir-là en tête, mais je n'affirmerai pas à 100% que c'est le dernier match que Dembélé a fait de bien avec les Bleus. C'est juste que c'est très difficile de trouver un bon match. À la dernière Coupe du Monde, il partait pour être totalement titulaire. Finalement, il ne l'a pas été. En 2018, il partait également pour être titulaire. Et finalement, il ne l'a pas été. Ça fait longtemps qu'il est en équipe de France, Dembélé. Ça fait longtemps qu'on parle de ce joueur, qu'on voit ce joueur depuis Rennes, Dortmund, le Barça, maintenant le PSG. Et ça fait également très longtemps qu'on est parfois emballé. Je dis bien parfois emballé. Très rarement subjugué ou amoureux fou et le plus souvent déçu par ce qu'il propose sur le terrain. Il est dans la catégorie cette longue liste, ça fait plusieurs semaines que je me dis qu'il faut que je la fasse cette liste et que je ne la fais pas, des fameux joueurs de côté dans laquelle tu peux aller ranger les Sancho, Rashford, Sterling, toute cette clique de joueurs de côté qui sont à la mode un petit peu partout, Joao Félix, enfin il y en a plein. Et finalement peu qui sont réguliers ou totalement toujours décisifs. Dembélé, on me sort ses stats cette année, on me dit ouais, c'est un des joueurs qui a fait le plus de passes décisives. Honnêtement, j'arrive même pas trop à me souvenir moi de où elles sont en fait, de comment on analyse les stats de Dembélé cette année, un attaquant qui met même pas une poignée de buts sur une saison.
8 passes décisives, j'ai les stats sous les yeux.
Mais 8, mais certains disent 10, d'autres 15.
8, 10 avec la coupe.
Non, mais d'accord, mais bon, est-ce que c'est des vraies passes décisives? Est-ce que c'est suffisant?
Oui, la notion de passes décisives.
Mais est-ce que c'est suffisant quoi qu'il en soit pour un joueur de ce calibre, ou en tout cas qu'on annonce de grand calibre? On a essayé à un moment de changer de position, en le mettant au milieu, en faux 10.
C'est vrai qu'hier soir, il était toujours là à rentrer, puis t'as l'impression qu'en fait, il butait sur la défense autrichienne.
Et je trouve qu'au final, il est très moyen, mais il échappe très souvent aux critiques. Mais vraiment, je trouve qu'on s'attarde très peu sur son cas. Ouais, Flo, on s'attarde peu sur.
Ouais, je suis pas tout
et tu sais pourquoi?
Sur sa finition,
parce qu'il est également dans une autre catégorie. Il est dans la catégorie des joueurs tais-toi. Les joueurs tais-toi, c'est les gars où 9 matchs, tu vas pouvoir les critiquer, mais un, il va te mettre une frappe de malade sous la... Un peu comme il a fait avec le PSG contre le Barça, où il t'en rate 150, et puis là, il ferme les yeux et ça va sous la barre.
Il glisse.
Hein?
Non mais en plus c'est marrant parce qu'il glisse, tu sais, sur, ouais, la, sur l'appui.
Il est pas du tout à l'aise en fait, il maîtrise pas réellement son geste. Mais c'est le joueur tais-toi. C'est, tu l'as critiqué, mais comme il est capable de te faire un énorme match une fois, ou une frappe, ou une passe, ou un truc, je ne sais quoi, d'élimination qui va faire lever les foules. Et ben en fait après tu vas dire ah, tais-toi, tu vois bien, fallait pas dire ça. Donc il est, c'est un joueur tais-toi, Dembélé. Mais ce soir j'ai pas trop envie de me taire parce que moi il me déçoit beaucoup trop souvent.
Oh. En fait, c'est un avis à l'issue duquel je suis d'accord avec l'analyse, mais je vais pas être d'accord avec la conclusion. C'est-à-dire qu'en fait, tout en étant d'accord avec ce qu'a dit Daniel sur ses arguments, sur en fait cet aspect déceptif, on va dire, du joueur, j'estime que ça reste notre meilleur atout dans cette équipe.
Bah, c'est terrible de dire ça.
Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu as dit est vrai. On sait son absence de finition, le déchet dans les grands matchs, enfin dans les grands matchs ou dans d'autres. Ok. Et néanmoins, si tu me parles de l'attaque en ce moment, je parle vraiment en ce moment, c'est-à-dire ponctuellement où Mbappé en plus est un peu moins bon. Je me dis qu'hier, par exemple, dans le début du match, j'estimais qu'on ne passait pas assez par le côté droit, puisqu'il y avait beaucoup ce côté gauche. Et donc, je dis juste, hein, je n'enlève rien.
Excuses.
Non, c'est pas une excuse.
D'ailleurs, permets-moi de te couper sur un truc. C'est toi qui as dit hier, très justement, parce qu'il me fait penser, il est également dans cette catégorie, c'est Doku.
Ouais, tout à fait.
Il fait plein de trucs, mais le but, c'est pour sa gueule.
Oui, tout à fait. Mais néanmoins, je préfère hier, dans le match de la Belgique, par exemple, je préfère avoir Doku qui a dynamité la défense et qui a fait quelque chose.
Mais parce que le football, aujourd'hui, il est fait de percussions. Plus que de joueurs techniques.
Tu sais pourquoi, Daniel? Tu sais pourquoi je veux le voir?
Moi, c'est pas un football que j'aime beaucoup.
D'accord, mais je veux le voir parce que, connaissant le style de Deschamps et sa façon de jouer, il faut ces dynamiteurs. C'est-à-dire, il fallait un Mbappé dynamiteur côté gauche. Il faut un dynamiteur et un dribbleur côté droit. Donc,
il y aura du déchet. Un match comme ça, Dembélé, il laisse sa place à Kolo Muani.
Malheureusement, pour moi.
Bizarrement, il préfère Kolo Muani.
C'est le jour et la nuit, malgré tout.
Mais moi, je te dis pas ça.
Et donc, c'est pour te dire qu'on peut être d'accord sur l'analyse que tu fais de sa carrière récente en bleu et tout, ok?
Tu veux dire qu'il faut s'accommoder ce genre de joueur désormais.
Mais j'en ai besoin. Moi, hier, quand par moment, tu t'enquillais le côté gauche, comme toujours avec l'équipe de France, et effectivement Théo Hernandez a fait un très bon match, ok, que je voyais mon Mbélé, et encore je pense que j'avais été dans le stade, au stade ça aurait été encore pire, réclamer le ballon qui ne soit pas donné, et qu'après évidemment sur la première fois ou après ne pas avoir touché le ballon pendant 5 minutes il rate un peu son contrôle parce qu'il a mis une balle en touche, etc. Je te dis que quand même cette équipe de France là, elle a besoin de ce genre de dynamiteur, sinon il ne se passera rien en équipe de France.
Je pense que c'est malheureux mais il ne se passera rien sans Dembélé. Malheureusement raison.
Ouais, exactement.
Il ne se passe rien sans Mbappé
qui fait la même chose de l'autre côté.
Mbappé, on est sur un autre niveau.
Je te dis que le Mbappé en ce moment qui n'arrive pas tout à fait à faire les mêmes diffs, et je t'ai dit que dans ce cas-là, si t'as pas un côté droit, un Dembélé qui percute et qui élimine.
Les
Français
ont fait ces différences.
Si il fait la diff Dembélé, il peut éliminer n'importe qui. Moi, je reconnais que cette phrase-là, tu sais, on a dit qu'il ne sert à rien, je suis d'accord avec toi. Le meilleur dribbleur du monde, c'est tous les coachs qui disent il est incroyable. Ok, moi je m'en fous de ça. Mais la vérité, c'est que hier, par exemple, j'avais envie à un moment donné de voir le ballon côté droit. Donner le Dembélé, qu'il essaie. Je sais qu'il va y avoir du déchet.
Mais cette année, on s'est dit mille fois ça.
Et avant
le PSG.
Mais il a fait aussi.
Il a fait aussi
des diffs avec le PSG. Si t'as pas Dembélé au PSG cette année. Non, mais si tu l'as pas au PSG cette année, c'est horrible.
Je vais même te dire que ceux qui ont dit que Barcola était une meilleure recrue que lui, j'ai toujours pas compris.
Alors, tu me lances une perche. Moi, effectivement, je veux du Barcola parce que je veux aussi ces joueurs. Tu as raison. C'est un foot différent dans lequel ça se bloque et tu attends que ce mec-là dynamite.
Il me laisse un peu perplexe.
J'ai envie de voir ce genre de joueur sur le terrain. Sinon, tu vas. Tu as vu les moments hier où on s'est fait chier.
Pour moi, le meilleur actuel dans cette catégorie, et je pense que quand tu changes de catégorie, c'est quand tu es comme Vinicius ou comme Mbappé. Là, tu es au-delà de cette catégorie. Quand tu restes dans cette catégorie-là,
mais tu n'as pas beaucoup de joueurs comme ça, Daniel.
Le gars qui percute et qui est irrégulier. Je suis pas fan. J'y peux rien. C'est le football d'aujourd'hui.
Non,
oui, tu as raison.
Il faut
le mettre. Oui, tu as raison. Je suis pas en désaccord avec ce que t'as dit. Vraiment pas. C'est juste une affaire de goût de foot. Mm-hmm. Quand tu arrives au niveau de Mbappé en dehors des 6 derniers mois ou de Vinicius depuis un an ou deux,
je comprends.
Pour moi, t'es dans l'autre catégorie.
Mais quand t'as des équipes. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu as des équipes.
Ou Foden qui a réussi à se réinventer, parce que Foden, il était dans cette catégorie. Il s'est inventé un nouveau style.
Quand tu as des styles, et des sélectionneurs notamment qui n'ont pas d'animation offensive suffisante. Et dans ce cas-là, moi je ne veux pas refaire.
On se réfugie derrière ça.
Oui, mais je ne veux pas refaire le monde aujourd'hui. Puisque Southgate est à la tête de l'Angleterre et que l'équipe de France a cette animation offensive là et que Mbappé va un peu moins bien, je veux Foden, je veux Dembélé, je veux Barcola,
je ne dis pas que je veux Doku, mettre, hein, mais
je veux ces mecs-là.
C'est un football qui me.
Bon, les gars, il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous donner une info OM, vous dire que l'OM, dans le deal Vitinha au Genoa, va récupérer 20 millions d'euros. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, ce qui atténue un peu le fiasco.
Je ne sais pas si le calcul est exact, on va prendre l'info comme
c'est ce que le dit Flo Germain. Hein, donc, l'accord, 16 millions plus 4 millions de bonus, quasi automatique. Voilà. Et puis, les droits télé. Il faut qu'on fasse le point, parce que Vincent Labrune s'est exprimé. Il dit, ni Monsieur Saada ni Monsieur Bolloré n'ont jamais voulu négocier ni même discuter avec nous. Ils ont dit ce qu'ils allaient faire et ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Voilà. Mais il faudra bien finir par trouver un moyen de renouer le dialogue d'ici la fin du mois, dit Vincent Labrune, qui en gros attend devant la porte de Canal, quoi. Il serait irresponsable, dit-il, de prendre une décision sur le droit sans avoir évalué les possibilités qui existent avec Canal+. Donc en fait, il fait tout pour renouer le dialogue avec Canal après avoir fait tout pour le casser.
Après avoir cassé, après les avoir traités comme des va-nu-pieds, là d'un coup il arrive et puis il fait coucou Chepanier, allez ouvrez-moi la porte. Écoute, s'il arrive à faire ouvrir la porte à Canal, ok, mais selon mes informations, ils vont pas ouvrir la porte.
Et s'ils ouvraient la porte à quelqu'un d'autre? Si Labrune sortait du paysage?
Ah, ça c'est encore autre chose, je pense que ça peut être une solution. Et c'est pour ça que je rappelle quand même que les 500 millions qui seraient aujourd'hui une bénédiction, DAZN les avait donnés. Mais Labrune, pareil, a dit barrez-vous, 500 millions, c'est une offre de misérable. Donc il a également claqué la porte à la tronche de DAZN. En fait, ils ont été tellement Vincent Labrune a été tellement prétentieux, arrogant, sûr de lui, a traité tout le monde comme des minables. Je vais pas en dire plus, quoi, mais aujourd'hui, ce qui lui arrive et ce qui arrive au football français, ça n'est que de sa faute. Il est 100% responsable de la situation dans laquelle est le foot français aujourd'hui. Et les présidents de clubs qui lui ont fait une confiance aveugle, tous ces laquais de Caillot à Nicolin à beaucoup d'autres, sont responsables également. Même Aulas n'a pas assez parlé. L'OM n'a carrément rien dit du tout.
Je pense que Kita, il est au bord de...
Ougourian, qui est soi-disant un grand homme d'affaires, lui non plus n'a rien dit et l'a défendu. Donc bon.
Et puis Vincent Labrune qui commence à parler d'un abonnement maintenant à 20 euros. Il a baissé de 5 euros.
Bientôt, il va peut-être le faire à 15. Non mais les calculs sur la chaîne de Labrune sont catastrophiques.
Bien sûr.
Tous les calculs qu'il a fait là, mais...
Il n'arrive pas à chiffrer les lettres. Hein, dans un instant, la libre antenne, on va parler de droite télé, mais la libre antenne, ils préfèrent faire le classement des villes les plus pourries.
121.
Ah ouais.
C'est pas faux.
C'est bon.
C'est
pas faux.
C'est ça ou pas?
C'est quoi, ouais. Gilbert,
ouais, t'aurais mis qui, toi?
La ville vous avez oublié une ville la plus très pourrie.
T'en as donné une. Tu t'as pas cité, je t'ai envoyé un petit SMS que t'as eu aujourd'hui.
Montluçon.
Montluçon. Permettez-moi quand même d'ajouter Brive.
Hein?
Brive?
Non.
Pas Brive, par rapport à tous les autres, excuse-moi.
Alors, Niort,
une fois que
Monceau-les-Mines, vous ne saviez, même pas pourquoi les chamois.
C'est quoi la culture générale?
À Niort, il y a une culture de la conception de la peau de chamois. La petite peau de chamois dans ta voiture,
c'est ça. Je ne dis pas sa culture.
Et les assurances aussi, non?
C'est les assurances. Chamois et les assurances.
Bah, ok, mais c'est.
Et toi, Daniel, c'est quoi la ville la plus horrible que tu aies vue en France, que tu aies visitée?
Gif-sur-Yvette?
Arrête,
Non, mais il n'est pas
Paris
sans ça. Sedan, c'est très triste.
Sedan, bah merci.
Charleville-Mézières,
c'est très dur.
Charleville-Mézières,
Sedan, c'est
très dur. Non, mais je vous invite à aller à Montceau-les-Mines, une fois.
Bah,
vous en reviendrez pas, mais allez-y.
Non, c'est très sympa, tu reviens très vite. Julien Cazard est là, qu'est-ce que tu penses de mes nouvelles attributions, mes nouvelles fonctions?
Docteur Mamoun,
je démarre.
Quel mytho.
Par confraternité et parce que j'ai envie que ça se passe bien, je veux dire, c'est exactement ce qu'il a dit.
L'opération, c'est juste qu'ils veulent pas la faire, mais il faut la faire.
Ah, ah,
voilà, t'as des infos. Attends, si toi le médecin il te dit monsieur Cazard, prenez ce traitement, mais... tu veux pas le faire, ça te regarde. Attends, mais... ça te regarde. Attends. Si tu veux pas suivre l'ordonnance.
Bien sûr, mais bien sûr, c'est imparable.
Non, mais,
c'est...
mais moi je fais l'ordonnance, s'ils veulent pas m'écouter.
C'est pas ton problème.
C'est pas mon problème.
Et attends, j'ai même mieux.
L'opération il va la faire, mais plus tard. En attendant, il va jouer sans respirer.
Gilbert a donné la solution, il a les mêmes initiales que Didier Raoult.
Ouais, c'est ça, bah, ça j'avais compris.
Non, mais docteur Kubler aussi.
J'ai les dernières infos qui disent qu'en fait Djokovic était disponible et que rien que pour faire chier Daniel. Non, 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 attention, Djoko, il pouvait jouer, c'est qu'il a décidé pour nous emmerder.
Mais Djoko, c'était pas des infos, tu sais très bien, c'était j'ai mal apprécié un bluff.
C'est
un bluff.
Non, mais là, vraiment, à la photo, tu savais.
Oui, à la photo.
Faire une IRM à distance,
c'est fort.
Alors, on m'a envoyé les photos, Daniel. J'ai regardé les photos.
Bah, moi, en fait, il fait ses diagnostics comme au poker.
Je me lance en carrière.
On connaît la carrière. Hier, j'ai fait une soirée un peu arrosée, j'ai pas fait attention. Dans le fond de mon œil, j'ai une bléno ou pas? Tu peux voir si j'ai une blénorragie.
Non,
dans le fond de l'œil, ça va.
Ouais, ça va.
Bon, ben c'est bon.
Non, sérieux, là,
non, mais c'est bon, je fais pas de test.
Tu peux retourner.
Ça me brûlait un peu quand je pissais, ouais. Mais je suis rassuré.
Non, ça n'a rien à voir.
Bon, allez, on passe la libre antenne jusqu'à 1h30. Merci Daniel, merci
non,
Florent.
Si ça te brûle, ça, c'est un chaud de pisse, c'est pas pareil.
Ah merde, c'est un chaud de pisse.
Quand ça brûle, si tu fais pipi, il faut faire attention où tu l'as mis avant.
Aïe.
Attention.
Oui, ça, il faut. Je suis allé en Allemagne et les toilettes publiques, c'est plus que c'était chez les Allemands. Je dis ça.
Attention, c'est dès que tu la sors dans les toilettes, tu peux choper un truc.
Merci, docteur Yolo.
Elle va pas aussi bas.
Gilbert est parti, il reste plus que Thibaut.
Ouais, mais pour une fois que c'est dans ce sens-là, ça fait quoi alors?
Pareil que toi demain soir.
Demain soir. Bon,
ils ont dit que pour Suisse-Écosse, c'est toi qui faisais la sœur.
Oui, mais j'ai laissé ma place à Nico Villas quand même, pour, parce qu'il connaît mieux les
Suisses et les Écossais.
Mais ça suffit 1h30 d'after pour Turquie-Géorgie.
Non, c'est Suisse-Écosse, surtout demain.
Demain, ça me suffira 1h30 d'after.
Je suis en suspense pour savoir si ça va suffire ou pas.
Il va falloir vite trouver un sujet. Hein.
Médecine.
Médecine,
parce que je me lance vraiment. Donc, voilà.
Demain, Daniel.
Demain,
c'est pas au PSG.
Parce que honnêtement, tu crois que ce serait moins bien?
Non.
Avec tous les problèmes qu'on a eu.
Je me permets, vite fait, vous avez évoqué votre. Vous savez que vous êtes au courant que vous êtes des guignards, absolus.
Ah oui.
Alors, qui sont les trois personnes en équipe de France qui ont eu qui sont limite incertains? Kamavinga, Olivier Giroud. Antoine Griezmann, vous pouvez me rappeler chez qui vous allez pendant l'after?
Ouais, s'il y aura des délocs.
Ah, ça tombe bien parce que en huitième de finale, on risque d'aller à Évreux et là-bas ils sont trois.
Éliminé la France.
Samba. Alors, hier, on était en train de regarder le match.
Ouais.
Il s'est pris le panneau publicitaire en pleine tronche. La tribune était en
train de se faire. Kamavinga va pas bien, vous allez aller chez lui.
Vous gagnez même.
C'est incroyable.
Et on est d'accord que Bondy, ça a été évoqué.
Bondy, c'est la demi-finale. Bondy, c'est en demi-finale.
C'est en demi-finale.
Bondy, c'est le. C'est la cerise sur le gâteau.
Après, on a déjà prévu les demi-finales.
C'est la chantilly sur la crème.
Ouais, bien sûr. Gâteau sur la cerise.
Gilbert?
Non, rien, moi je.
Vous gagnez quoi?
Je vous laisse la parole.
C'est la libre.
C'est votre émission.
Un petit jingle et on y va.
RMC, l'after foot intégral.